bien connu de tous. Nous sommes donc sur un terrain de connaissance et en ce dimanche des rameaux, nous avons relu le récit tel qu'il se présente dans l'évangile de Marc. L'arrivée de Jésus à Jérusalem, au mont des Oliviers. L'âne, le cortège qui se forme, les cris des gens, l'entrée dans la ville de Jérusalem, tous ces détails, nous connaissons. Pour un peu, nous avons presque l'impression d'y être. Nous sommes un peu comme des spectateurs invisibles parmi cette foule, parmi ces disciples qui crient leur joie. Et justement, ce matin, en ce jour des rameaux, je voudrais que nous nous posions la question sur ces cris. Que crie-t-il ? Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père, c'est-à-dire notre ancêtre. La foule salue en Jésus un successeur du grand roi David, le roi d'Israël. Et il me semble que l'essentiel de cette scène est là. Là, dans ce cri qui reconnaît dans la personne de Jésus le Seigneur, le roi, ce roi qui vient pour régner. Mais il y a, à regarder de plus près notre texte, un autre aspect de l'essentiel qui nous est indiqué par un tout petit détail qui vous a peut-être interloqué, voire peut-être choqué. Comment un roi peut-il faire son entrée dans la capitale monté sur un âne? Tout le monde connaît cette histoire en forme d'interrogation. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Tout le monde sait qu'un roi monte sur un cheval blanc. Le roi qui rentre dans la capitale est assis sur un âne. Et ce que je voudrais que nous regardions bien, que là où je voudrais que nous nous arrêtions, c'est sur ce petit détail, parce que je crois que ce n'est pas un détail qui est dérisoire. La présence de cet animal que l'on dit souvent bête, bête comme un âne, têtu comme un âne, cet animal nous renvoie au prophète Zacharie, qui de son côté annonce la venue d'un roi qui sera monté sur un âne. Et la coïncidence, pour moi, n'est pas le fruit du hasard. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion cette semaine de dire à quelqu'un avec qui je discutais dans mon bureau, je ne crois pas au hasard. Je crois plutôt à la providence, mais pas au hasard. Et cette coïncidence n'est pas le fruit du hasard. Il me semble que Marc, quand il rédige ce récit, pense à Zacharie. Et pour essayer de comprendre cette scène des rameaux, nous ferions bien de nous rapporter nous aussi au prophète qui éclairera notre texte de ce matin. À première vue, l'évangéliste Marc ne cite pas explicitement Zacharie. Matthieu le fait. Il le cite explicitement. Matthieu, lui, a un souci. C'est le souci de décrire très exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu. C'est le rôle d'un témoin. Marc ne cite que la moitié d'un verset. « Voici que ton roi vient à toi, humble, monté sur un âne, le petit d'une bête de somme. » Un demi-verset et seulement une petite partie du message de Zacharie. Et il nous faut du coup essayer de comprendre. Et pour comprendre ce que nous dit Marc, il faut évidemment lire le texte dans son contexte. Car comme je le dis souvent à mes étudiants, arracher un texte de son contexte pour s'en servir comme prétexte, ça ne se fait pas. Il faut donc lire ce qui vient avant et ce qui vient après. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans notre lecture. Nous avons vu que le message de Zacharie s'adresse à une série de localités situées en dehors d'Israël. Le message s'adresse d'abord à la ville de Tyr, la grande cité, le grand port commercial de l'époque. Il est situé au bord de la mer, en Phénicie. Le message de Zacharie s'adresse aussi à Sidon. Il s'adresse à Ashkelon, à Gaza, à Ashdod. Il s'adresse donc aux Philistins. Les Philistins qui sont un peuple venu des îles de la Grèce et qui sont depuis des décennies le pire ennemi d'Israël. Et Zacharie reproche à toutes ces villes et à leurs habitants leur paganisme, leur pratique idolâtre. Zacharie leur prédit la ruine. Et c'est ce qui se réalisera. La chute de ces cités au nord, à l'est du pays d'Israël, aura pour résultat de procurer la paix à Israël. Et le roi que Zacharie annonce brisera les armes, il détruira les chars de guerre et il rendra inutiles les arcs. Aujourd'hui, on dirait les fusils mitrailleurs, les tanks, les missiles et tout ce que vous voulez. Toutes ces armes ne seront plus nécessaires, puisque Israël n'aura plus à se défendre contre des ennemis. Pour lui, ce sera la paix et la sécurité. Et permettez-moi de citer Zacharie, il termine en disant « Plus aucun tyran n'accablera Israël. » La fin définitive des guerres va bien, va même très bien, avec l'âne sur lequel Jésus arrive. En effet, dans l'Antiquité biblique, le cheval c'est la monture de guerre. Les guerriers, à cette époque, sont montés sur des chevaux. Ce sont des chevaux qui tirent les chars de guerre, avec une allure foudroyante, sur lequel se trouve un tireur debout, à côté du conducteur, et qui tire ses flèches sur les ennemis. Tandis que l'âne n'est d'aucune utilité pour la guerre. Un âne ne sert à rien pour la guerre, car l'âne, c'est la monture pacifique. Les rois, tels que Salomon, montent sur un âne au moment de leur couronnement. Le roi annoncé par Zacharie est monté sur un âne pour signifier qu'il apporte la paix. Que son règne sera un règne de paix. Et Zacharie prévoit que ce roi règnera sur un territoire extrêmement étendu, puisque Zacharie le voit depuis l'Euphrate, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, jusqu'aux frontières du sud d'Israël, c'est-à-dire pratiquement le Nil. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui encore en Israël le Eretz Israël, le grand Israël. Le prophète Zacharie voit là le projet de Dieu. Projet de paix, projet de sécurité. C'est donc un projet qui est destiné à se réaliser dans l'avenir. Et vous remarquerez comme moi que cet avenir, Marc ne le précise pas. Peut-être que Zacharie pense à une réalisation très 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 lointaine, à un futur éloigné, au-delà de notre histoire humaine. Mais ce monde de paix, cette domination universelle du roi, il est intéressant de remarquer que Zacharie ne le situe pas quelque part dans le ciel, en dehors de notre monde. Le pays est bien réel. Les villes qu'il cite sont des villes qui sont réelles. On a aujourd'hui retrouvé les restes en fouillant la terre. Ce projet de paix concerne bien un monde concret, matériel, humain, ce monde où nous vivons. Zacharie, pas plus que le reste de la Bible, ne connaît pas cette notion d'un ciel désincarné au-dessus des nuages. Le projet de Dieu embrasse notre monde visible. Il embrasse notre terre. Et je voudrais que nous gardions en mémoire ce passage de Zacharie si nous voulons comprendre cette scène des rameaux. Jésus est donc monté sur un âne. La foule se met à crier. Elle salue Jésus comme roi. Je l'ai dit, je le répète, tous ces détails évoquent Zacharie. Pas seulement le demi-verset qui parle de l'âne et du roi, mais aussi l'ensemble du message. Et cet arrière-plan nous donne tout son sens à l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Jésus a-t-il dans la tête, à ce moment précis, le verset de Zacharie? Jésus pense-t-il à Zacharie quand il envoie ses disciples chercher l'âne? Jésus veut-il rattacher son geste à ce qu'a dit le prophète il y a maintenant plus de 400 ans? Car entre Zacharie, Malachie et Matthieu, il y a plus de 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus veut-il signifier par là qu'à travers lui, le royaume de Dieu se manifeste ? Une royauté qui ne va pas s'exercer seulement à Jérusalem, la ville où il va rentrer, mais une royauté universelle qui s'étend sur le monde entier, une royauté qui n'a pas de limite. Assurément, car Jésus affirme cette royauté, il affirme cette domination universelle de Dieu. Mais la scène, nous le voyons, comprend trois acteurs. Il y a, naturellement, nous venons de le dire, Jésus. Jésus qui est au centre. Il y a les deux disciples qui vont chercher là nos villages le plus proche. Et il y a la foule. La foule qui escorte Jésus et qui crie leur joie. Le récit que Marc nous donne est-il seulement et simplement historique ? À cette question, je réponds non. Ce texte n'est pas seulement d'un intérêt historique. Il ne veut pas simplement nous rappeler ce qui s'est passé le jour des rameaux. Il ne veut pas simplement nous rappeler une belle journée de fête. Ce récit, il est pour toi. Il est pour nous. Il t'invite, il nous invite à trouver notre place. Allons-nous trouver notre place dans cette foule, parmi les disciples ? Vas-tu le reconnaître avec eux ? Vas-tu reconnaître que Jésus est roi et que Jésus est envoyé par Dieu ? Vas-tu le reconnaître enfin pour croire en lui comme celui qui est venu sur cette terre pour te donner la vie. Nous avons tous et toutes à reconnaître cette autorité. Et nous avons tous et toutes à nous y soumettre. Un de mes profs disait toujours, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Permettez-moi de citer quelqu'un dont on ne parle jamais, nous les protestants. Je vais me permettre en ce jour des rameaux de citer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui avait, comme tout le monde le sait, une phrase qu'elle répétait souvent. Et cette phrase, c'était celle-ci. « Seigneur Christ, dans ma vie, toujours premier. » Et les autres, ils viendront après. En montant sur un âne, Jésus prend aussi sur lui l'annonce de cette paix qu'annonce Zacharie. Jésus est bien celui qui apporte la paix. Cette paix, elle ne concerne pas seulement un ciel supposé. Cette paix, elle ne nous attend pas après notre mort. Cette paix que Jésus apporte est pour notre monde actuel, pour l'humanité réelle d'aujourd'hui. Jésus ne travaille pas seulement pour demain, il travaille pour maintenant. Ce qui veut dire que nous, qui nous voulons être disciples de Jésus, nous avons à travailler dur, mais à travailler pour apporter la paix. Parce que nous sommes des artisans de paix, des bâtisseurs de paix. Saint François d'Assise disait « cela avec une prière extraordinaire. Fais de moi, Seigneur, un bâtisseur de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Heureux, a dit Jésus, ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Et ce récit, en ce dimanche des rameaux, t'invite à devenir cet artisan de paix. Je termine en rappelant que dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul prêche la paix à ses correspondants. Il les exhorte à ne pas se laisser aller au goût des grandeurs, à ne pas dresser les gens les uns contre les autres. Il les invite à ne pas rendre le mal pour le mal, ce qui entraîne l'enclenchement de la violence. Il les invite à aimer les gens qui ne les aiment pas. C'est un moyen fantastique de propagation du mal que de rendre le mal pour le mal. Et il termine en disant « Ne vous laissez pas vaincre par le mal ». Et tout ce que Paul recommande exige qu'on fasse d'abord la paix. Mais pour apporter la paix, il faut déjà la vivre en soi. Est-ce que ce matin, tu peux dire que tu as la paix ? En toi, la paix avec Dieu. Pouvoir l'apporter aux autres, c'est bien, mais la connaître déjà soi-même, c'est encore mieux. C'est en chacun de nous, en toi et en moi, que Jésus-Christ doit mettre sa paix. C'est en chacun de nous qu'il doit régner pour que le message de Zacharie devienne une réalité. Vécu. Je suis venu apporter la paix, dit le Seigneur. Cette paix, il veut nous l'offrir. Il s'agit pour nous de savoir si nous la désirons. Nous y réfléchissons dans la prière. Je vous invite à nous incliner. Seigneur, nous te remercions pour la paix que tu nous donnes. Nous te remercions pour ta mort sur la croix. Nous te remercions, Père, parce que par cette mort, tu nous donnes la vie. Merci pour ce sang précieux qui a coulé sur la croix pour nous. Merci parce que ce sang purifie nos péchés. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce. Et nous te demandons de tout notre cœur. S'il y a ce matin parmi nous une personne qui ne te connaît pas, qu'elle puisse faire la paix avec toi maintenant, qu'elle ressorte de ce lieu avec cette joie qui nous anime. Père, nous t'en supplions au nom de Jésus, convainc par ton esprit que nous avons besoin de toi. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.